Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10 au verset 28. Alors c'était pas un texte que j'avais prévu dans mes notes, mais c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui sera comme une introduction à ce qu'on va partager. Avant de lire ce qu'il y a marqué là, dans Marc chapitre 10 verset 28, on a vu jusqu'à présent 4 fois 4 façons d'aimer, 16 façon d'aimer, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais plus je lis ces 16 façons d'aimer que l'on trouve dans 1 Corinthiens 13, plus j'ai envie de me jeter à genoux et de dire « Seigneur, aide-moi parce que je suis bien faible ». Je ne sais pas si ça vous fait pareil, en tout cas moi c'est ça que ça me produit, chaque fois que je lis 1 Corinthiens 13, « Seigneur, combien ton amour est grand et combien j'ai besoin de ton aide ». Je ne veux pas être quelqu'un qui connaît les 16 façons d'aimer par cœur, mais qui ne fait rien. Je veux être quelqu'un qui vit ta parole. Et nous voyons dans la Bible que un des moyens de mettre en pratique l'amour de Dieu, c'est pas de connaître de manière intelligente les 16 façons, c'est pas de se répéter tous les jours, il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que c'est? Le meilleur moyen de connaître l'amour de Dieu, c'est de connaître le Dieu d'amour. C'est d'avoir une expérience de communion avec le Dieu d'amour. Quand vous voulez connaître quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Ben vous passez du temps avec la personne, d'accord? Soit par texto, téléphone et tout ce que vous voulez, ou alors en direct par des discussions, parce que c'est le seul moyen de connaître la personne. Est-ce que vous connaissez Emmanuel Macron? Qui connaît Emmanuel Macron? Qui voit qui c'est? Bon, il y en a quelques-uns quand même. Mais maintenant, quel est son dessert préféré? Franchement... C'est pas grave si on ne le sait pas, hein. On va pas mourir bête. Pourquoi? Pourquoi on le sait pas? Mais parce qu'on le connaît pas en fait. On sait qu'il a une responsabilité, etc. C'est le président, mais on le connaît pas personnellement. Mais Dieu lui veut. C'est un homme infiniment important que n'importe quel homme politique sur la terre. C'est même pas un homme d'ailleurs. Le Seigneur Jésus, oui, c'est un homme infiniment au-dessus de tous les hommes de cette terre avec qui nous devons être en relation, en communion. Et c'est ce que le Seigneur veut afin que nous puissions vivre son amour. Sinon, tout ce qu'on a partagé les derniers dimanches ne sert à rien. Ça sera que une cymbale qui retentit. Parce que le Seigneur veut une communion avec nous et nous avec lui. Alors, Marc chapitre 10, verset 28, ça nous montre aussi quelqu'un qui est là, qui, par rapport aux paroles de Jésus, il se trouve un peu en difficulté. Alors, il pose une question, Pierre. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et regardez ce que dit le Seigneur Jésus. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec quoi? Des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Une promesse du Seigneur Jésus que il y a parfois des devoirs de quitter. Alors ça ne veut pas dire se couper les ponts, il faut bien mettre en relief tout cela. Ce n'est pas couper les ponts avec sa famille. Ceux qui demandent de faire de telles choses, ce sont tout simplement les sectes qui nous disent de se mettre à part de ceux qui sont dans ce monde. Mais il y a des moments où on doit donner la priorité au royaume de Dieu, au Seigneur. Et quand on fait cela... Ben, le Seigneur nous promet qu'en retour, il nous donne encore. Il va nous donner d'aimer encore davantage notre famille. Il va nous donner d'aimer encore davantage les nôtres. Mais en plus, il va nous donner d'autres personnes qui vont faire partie de notre famille. Quand on en donne son cœur au Seigneur, ben, on entre dans une nouvelle famille. Ça, on ne renie pas l'ancienne, mais on a une double famille. Une famille de chair et de sang, auquel on tient beaucoup, et qu'on veut que Dieu bénisse, mais aussi une famille spirituelle. Et même si on parle notre langage, on sait que par le Saint-Esprit, on est un. Amen. Ah, je suis content. Il a compris même en français. Merci Seigneur. Alors, on va lire donc le passage qui nous intéresse dans Genèse au chapitre 22. On s'aperçoit en fait que dans la Bible, le Seigneur a choisi de se révéler de manière précise dans certains moments particuliers à des hommes ou à des femmes. Et là, l'homme en question, il s'agit d'Abraham. Abraham. Je ne sais plus si c'est hier ou vendredi qu'on nous expliquait que jusqu'au chapitre 11 de la Genèse, c'était... Vous étiez là? C'était vendredi. Hier alors. Hier, on nous expliquait que jusqu'au chapitre 11 de la Genèse, Dieu avait son regard tourné vers toutes les nations. Le problème, c'est que les nations, quand elles se sont assemblées, dans Genèse 11, elles ont fait la tour de Babel. Elles se sont assemblées contre Dieu. Et donc Dieu a amené ces personnes à se disperser par diverses langues, justement. Ils parlaient plus la même langue, ils ne se sont pas entendus, etc. Et au chapitre 12, Dieu a dit, je vais changer de méthode. Il ne s'est pas trompé, mais il savait ce qu'il voulait. Je vais utiliser un homme pour en faire d'une nation. Et au travers de cette nation d'Israël, qui va naître par Abraham et Isaac, je vais bénir toutes les autres nations. Et c'est ce qui s'est passé. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, qui s'appelle Israël, les 12 tribus, etc. Et au travers des tribus, au travers d'Israël, Dieu nous a donné quoi ? Sa parole. Dieu nous a donné quoi aussi ? Le Seigneur Jésus, un sauveur, et qui a ouvert la porte du salut à toutes les nations. Mais ça s'est passé au travers d'un homme qui avait une communion avec Dieu, qui connaissait Dieu, qui avait l'habitude d'entendre le Seigneur lui parler. Alors est-ce que c'était des voix audibles? Est-ce que c'était des visions? Est-ce que c'était des pensées dans le cœur? Ça, il n'y a pas les détails qui sont marqués. Mais ce qu'on sait, c'est que cet homme, il avait une communion avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il a pu progresser malgré ses défauts. Quand vous connaissez l'histoire d'Abraham, vous savez qu'il avait quelques défauts. Comme tous les hommes de Dieu dans la Bible, ils avaient tous des défauts, mais ils ont su avancer selon ce que le Seigneur leur disait. Et Dieu s'est révélé à lui d'une manière particulière. Alors c'est ce qu'on lit. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car... je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique Abraham, leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh ou Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. » Vous avez déjà entendu parler de ce passage? Remarquez que la Bible précise bien qu'il s'agit d'Isaac et pas d'Ismaël, et que ce texte de Moïse a été écrit des milliers d'années avant que le Coran dise que c'est Ismaël qui était sur le sacrifice. Des milliers d'années avant. Ça fait réfléchir quand même. D'accord? Parce que quelqu'un arrive par la suite et dit « Non, finalement c'est Ismaël et c'est ça la vérité. » Ça, voilà, ça fait réfléchir. Ça, c'est une histoire, enfin, c'est quelque chose d'historique, donc je vous laisse le soin de le vérifier si vous voulez. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cet homme a vécu une expérience avec Dieu, pourtant il en avait déjà vécu, puisqu'il avait un fils Isaac à côté de lui, alors que sa femme était stérile et lui, il avait 100 ans et elle 90. Et pourtant, ils ont eu un enfant. Donc, c'était déjà pas mal, hein. Je veux dire, comme expérience, c'est déjà pas mal. Mais il avait besoin de vivre quelque chose de plus avec le Seigneur. Et parce qu'il avait une communion avec le Seigneur, il a vécu cette expérience qui l'a amené à connaître Dieu d'une manière nouvelle. L'Éternel est celui qui pourvoit. Littéralement, c'est l'Éternel voit. Yahvé Jiré, c'est l'Éternel voit. Vous savez que quand Dieu voit les choses, il ne regarde pas en disant bah, qu'il se débrouille. Quand il voit les choses, le Seigneur, il veut aider. C'est pour ça que quand il est dit que l'Éternel vit, l'Éternel voit, ben automatiquement derrière, l'Éternel pourvoit. Je vais vous donner un exemple. L'Éternel voit, a vu l'humanité esclave du péché. Automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Par son amour, il a été poussé à faire quoi? Ben à donner son fils. Quand Dieu voit, il pourvoit. C'est automatique parce que Dieu est fidèle. Quand nous voyons, parfois nous faisons ce qu'il faut, parfois on fait rien. Et c'est ça le danger. On est d'accord? Mais le Seigneur, lui, il est parfait dans son amour. Et nous avons tout intérêt à l'imiter. Et le Seigneur a vu, le Seigneur savait que ce qui allait se passer, et le Seigneur a voulu manifester sa gloire et se faire connaître un peu plus à cet homme. Dieu voit peut-être ce matin quelqu'un qui est dans l'épreuve. C'est ce qui a été déjà dit plusieurs fois. Dieu le voit, mais je peux vous dire que Dieu va pourvoir. Parce que quand Dieu voit les choses, il pourvoit. C'est automatique, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et il veut nous rappeler ce matin, nous demande de croire de tout notre cœur. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est, vous avez dans vos Bibles Jéhovah peut-être. Il y en a qui ont Jéhovah dans leur Bible? Oui? Qui a Jéhovah? Bon, il y en a quelques-uns. Vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous expliquer quelque chose. Là, c'est de l'histoire, mais qui est très intéressant. Les spécialistes aujourd'hui s'accordent pour dire que ce fameux tétragramme YHWH, vous savez que ce nom qui est intraduisible en français, qui veut dire celui qui est, ou qu'on a traduit dans nos Bibles de manière courante, l'Éternel, ce nom, les spécialistes s'accordent pour dire qu'il faut le prononcer Yahvé. Ce qui s'est passé, c'est que, par respect extrême, les Juifs, à un moment donné, quand ils voyaient Yahvé marqué dans leur texte, ils ne voulaient pas le prononcer. Ils ont refusé de prononcer Yahvé et ils ont préféré le remplacer par Adonai. Adonai, ça veut dire Seigneur. À chaque fois qu'ils voyaient marqué, si vous voulez, dans votre Bible, l'Éternel, ils disaient Seigneur. D'accord? Et le problème du texte hébreu, c'est qu'il n'y a que des consonnes. Donc, il n'y a pas de voyelles dans le texte hébreu. Donc, on savait comment ça se prononce parce que il y avait une mémoire auditive. Par exemple, Shalom, c'était S-H-L-M. Mais les gens savaient, parce qu'ils se saluaient avec un Shalom, c'est ce qu'ils nous rappelaient Amir encore. Shalom, ça veut dire paix, mais ça veut dire salut, bonjour, au revoir. Ça veut dire tout ça pour les Hébreux. Et donc, ils avaient que S-H-L-M, mais ils savaient que ça se prononçait Shalom. Alors, il y a des gens dans les années qui ont commencé à vouloir marquer des signes dans le texte hébreu pour dire, bon, on va quand même aiguiller pour se souvenir des voyelles. Le problème de Yahvé, c'est que on se souvenait pas exactement comment ça se prononçait, ou on voulait pas s'en souvenir parce qu'on n'avait pas le droit de le prononcer. Donc, on va mettre dans Yahvé les voyelles d'Adonai. Et ça nous donne Yahovah. Jéhovah. Donc, Jéhovah, c'est un nom qui est totalement artificiel. Totalement artificiel. D'accord? Ça fait réfléchir aussi. Certains se proclament les témoins d'eux. Mais la Bible nous dit qu'on est les témoins de Jésus-Christ. Et ça, c'est officiel, il n'y a pas de souci. Vous le trouvez dans tout le Nouveau Testament. Alors, est-ce à dire qu'on n'a pas le droit d'employer Jéhovah? On peut le dire quand même, puisque ça a été comme ça dans l'histoire. Mais bon, au moins, vous savez d'où ça vient. Et les spécialistes historiques nous disent que c'est plutôt Yahvé qu'il faut prononcer. Après, je vais vous poser une question quand même qui est intéressante. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de bien prononcer Yahvé ou Jéhovah, ou est-ce que c'est d'honorer le nom du Seigneur et de connaître personnellement ce Dieu-là? Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord, la deuxième, elle est mieux, hein? Et c'est pour ça qu'on va avancer en comprenant ce qui s'est passé pour cet homme Abraham. Quand Dieu voit, il pourvoit. Voilà ce que Abraham a retenu comme leçon. Le Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu de parole. Il parle. Il veut avoir une communion avec nous, mais pour nous parler, pour nous aiguiller, particulièrement une parole qui nous éprouve. Une parole qui nous éclaire et une parole qui expose ses projets pour l'avenir. On commence avec une parole qui éprouve. La première parole de Yahvé Jiré, c'est une parole qui éprouve. Pour que Dieu pourvoie, ça on n'aime pas trop, mais pour que Dieu pourvoie, il faut qu'il éprouve. Si nous voulons que Dieu manifeste sa grâce, ben il faut qu'il y ait un besoin où il manifeste, il faut qu'il y ait une opportunité. Et Dieu parfois suscite des épreuves pour manifester sa grâce, pour nous faire grandir. Vous l'acceptez ça? Vous avez compris? Parce que parfois, Dieu nous éprouve, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde! Dieu est en train de m'éprouver, je ne comprends pas. Mais est-ce que vous avez lu avec moi? Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit, cette parole, elle lui est donnée, et quand on entend la parole, on peut comprendre pourquoi il est éprouvé. Hein? Donne-moi ton fils, prends ton fils et va l'offrir en sacrifice. Si Dieu vous disait ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Vous serez comme moi, on dirait Seigneur tout, mais pas ça. Et heureusement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin. Dieu vous dira jamais ça aujourd'hui. Dieu l'a dit à Abraham dans un temps spécial et Dieu savait comment les choses allaient se passer. Mais Dieu condamne, il le dit de manière très claire dans la loi, tous ceux qui offraient leur enfant en sacrifice pour des faux dieux. Mais Dieu connaissait, savait les choses et il allait pourvoir. Mais c'est une parole qui éprouve. On veut bien de la provision, on veut bien de la bénédiction, on veut bien de la grâce de Dieu, mais on ne veut pas de l'épreuve. Mes frères et sœurs, si nous ne voulons pas l'épreuve, nous n'aurons pas la provision, nous n'aurons pas la bénédiction, nous n'aurons pas la gloire du Seigneur qui se manifeste. Mais dans l'épreuve, le Seigneur va manifester sa puissante main. Après ces choses, il est dit, après tous les combats, toutes les difficultés qu'il a traversées, les doutes, à un moment donné, il voulait tellement l'enfant que son épouse lui a donné sa servante pour qu'il ait un enfant avec elle. Ismaël est venu comme ça, mais ça a créé du trouble dans le foyer, ça a été compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une répercussion dans l'histoire, puisque les Arabes contre les Juifs, il y a une opposition particulière qui vient de ce combat qui s'est passé avec Abraham. Mais après ces choses, peut-être qu'Abraham s'est dit, mais ça y est, j'ai fait beaucoup quand même jusqu'à présent. Maintenant, ça serait temps qu'on se repose. Ma vie chrétienne va être plus simple maintenant. Plus d'épreuves, plus de soucis. Il y en a qui pensent comme ça pour leur vie chrétienne, que tout va bien se passer. Tout va bien se passer, oui. Mais souvenez-vous ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Il n'est personne qui, ayant quitté, ne reçoive dans ce lieu-ci, dans cette vie-ci, des grâces, des bénédictions. Avec quoi? J'ai souligné exprès, hein, parce que c'est la Bible et c'est Jésus qui le dit, avec des persécutions, on pourrait dire avec des épreuves. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'étonnant à être éprouvé. Et quand nous sommes éprouvés, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons lever le poing contre Dieu en disant « Seigneur, tu m'as trompé, tu m'avais promis une vie rose ». Non, non, si vous lisez la Bible, c'est pas ce que Dieu vous a promis. Dieu vous a promis une vie merveilleuse avec des persécutions. Même au milieu des tribulations, il est là. Il a vaincu le monde. Mais il a promis de manifester sa grâce par ce moyen. Et Dieu entend, enfin Abraham plutôt entend la voix de Dieu, et peut-être qu'il se souvient que Dieu lui a déjà parlé, Dieu lui a annoncé qu'il allait avoir un fils, et maintenant le fils est à côté de lui. Dieu lui a parlé de manière claire dans Genèse 17 en lui disant « Tu es Abraham maintenant, tu vas être Abraham, tu es père élevé, tu as déjà une certaine position spirituelle, mais tu vas devenir un père d'une multitude, d'une bénédiction pour des milliers. » Vous voudriez être une bénédiction pour des milliers? Est-ce que c'est possible? Mais si on laisse le Saint-Esprit agir en nous, oui, c'est tout à fait possible. Quand on regarde la vie d'hommes de Dieu récemment encore, qui laissent le Seigneur les utiliser, ils sont des bénédictions pour des milliers, voire même certaines pour des dizaines de milliers. Certains qui ont fait des campagnes d'évangélisation en Afrique, je pense à Reinhard Bonnke par exemple, il a été une bénédiction pour des centaines de milliers de personnes dans le monde. Le Seigneur veut nous utiliser. Et Abraham repensait à tout cela et s'est dit, chouette, le Seigneur me parle. Enfin, encore une bénédiction, encore une grâce, encore une promesse. Comment vous êtes dans votre cœur quand le Seigneur vous parle? Lui, il a dit tout de suite, Seigneur, me voici, je suis là, qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis, bam! Donne-moi ton fils. Des fois, vous savez, quand Dieu nous parle, on a besoin de discernement, on a besoin de temps pour comprendre bien ce que le Seigneur veut nous dire. Mais là, il n'avait pas besoin de discernement, hein. C'était clair. C'était net, c'était précis. Donne-moi ce qui est le plus cher pour toi. Vous avez vu comment c'est dit? Donne-moi ton fils, ton unique, ton bien-aimé. Ça vous rappelle rien, tiens? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et on sent, on voit que cette histoire, c'est une préfiguration de ce qui va se passer plus tard. Mais Abraham, comment est-ce qu'il réagit dans ces moments-là? Qu'est-ce qui fait que cet homme a fait un progrès avec Dieu et il a pu connaître le Dieu qui pourvoit? Mais quand il a entendu cette parole, il s'est souvenu de ses promesses. Il s'est souvenu de ce que Dieu lui avait dit. Mais il a dit, « Seigneur, je vais t'obéir. » Oh, apparemment, il a fait la grasse matinée, il a traîné les pieds, c'est tout ça. Il a laissé ses serviteurs s'occuper du bois. Non, c'est rien à voir. Il a fait les choses avec zèle. Même si la finalité était terrible, il a fait les choses avec zèle. Qu'est-ce que vous faites quand Dieu vous dit certaines choses, de quitter certaines choses? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous obéissez de tout votre cœur, même si vous comprenez pas tout? Ou est-ce que vous traînez la patte? Abraham, lui, s'est levé de bon matin. Il a scellé son âne. Il a coupé le bois qui allait servir pour le sacrifice de son fils. D'imaginer l'état d'esprit dans lequel il était dans ces moments-là. Je suis sûr qu'il était tremblant, qu'il était dans toutes sortes de questionnements, mais il l'a fait parce qu'il savait qu'il avait une parole de Dieu. Et il est parti pour le lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, il est dit qu'il a vu le lieu de loin et qu'il a laissé ses serviteurs. Pourquoi? Mais parce que parfois, les personnes qui sont autour de nous peuvent nous entraver dans ce que nous devons faire pour le Seigneur. Il faut pendant un temps les laisser. Mais vous avez vu la parole qu'il leur a dite? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, « Nous irons jusque-là pour adorer », c'est au verset 5, « et nous reviendrons ». Il n'a pas dit « Et je reviendrai tout seul auprès de vous ». Il a dit « Nous reviendrons ». Mais est-ce que c'est normal ça? Ils partent à deux, il y en a un qui a offert un sacrifice, mais ils reviennent à deux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Abraham, il ne sait pas compter, il n'est pas mathématicien. C'est ça? Non, c'est pas ça, c'est plus fort que ça. Abraham, il avait la foi en Dieu. Et d'ailleurs, quand son fils lui dit « Mais il est où l'agneau? Il est où l'agneau pour le sacrifice ?» Imaginez le cœur d'Abraham dans ces moments-là, alors que son fils qui est là lui dit tout gentiment, « Mais papa, il est où l'agneau ?» Et Abraham, il sait que c'est lui l'agneau. Mais vous avez vu la vision qu'il a de Dieu. Il a dit, « Ne t'inquiète pas, mon fils, l'Éternel va pourvoir. » Et quand il a dit ça, mais il savait pas de quelle manière. Nous, on a l'histoire, c'est facile pour nous de croire. C'est facile pour nous de croire ce qui est déjà écrit. Mais mettez-vous à la place d'Abraham qui est éprouvé, qui est dans toute cette turbulence d'émotions, qui entend son fils en plus lui dire « Papa, mais il est où l'agneau ?» Et Abraham, par la foi, il dit « J'ai un Dieu qui pourvoit, j'ai un Dieu qui voit, qui connaît mon cœur, mais il va pourvoir, je ne sais pas comment, mais il va pourvoir. » Combien nous avons intérêt à avoir la foi d'Abraham et à imiter son exemple. Et cet homme, donc, a pris le bois pour l'Holocauste. Vous avez remarqué ce qu'il a fait avec, d'ailleurs? Il a chargé sur son fils. Et lui, il a pris dans sa main le feu et le couteau. Charger le bois sur son fils, ça vous rappelle rien non plus? Jésus-Christ montant sur le chemin de Golgotha, montant avec la croix sur le dos. Ce passage est là pour nous montrer ce que Dieu allait faire dans la suite des temps pour bénir les nations au travers d'Abraham, au travers de la postérité d'Abraham. Et Jésus, lui, il a pris la croix sur ses épaules, il a monté, il a chargé. Bien sûr, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, il s'est fait un petit peu aider parce qu'il était à bout de force. Mais Dieu, lui aussi, il était là. Dieu le Père était là quand Jésus. Des fois, on se dit, bon, Dieu, il avait abandonné le Seigneur. Non. Il a abandonné plus tard quand le Seigneur Jésus portait le péché sur lui-même. Mais il était là. Dieu, il était armé de la justice et de la colère contre le péché. Prêt à sacrifier son fils, c'était le seul moyen. Aucun d'entre nous, si nous étions à la place de Jésus, n'aurait servi à rien de donner notre vie, puisqu'on était pécheurs. Il fallait un sacrifice parfait. Et c'est Jésus-Christ. Et le Père et le Fils étaient là ensemble pour accomplir cette œuvre de salut, afin que nous soyons à son bénéfice. Vous savez ce qu'a dit Jean-Baptiste quand il a vu Jésus, au moment où il venait pour se faire baptiser? Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu. Oh, Isaac, lui, il savait pas trop c'était qui l'agneau. Il commence à avoir des soupçons de ce qui allait se passer. Mais il est resté dans la soumission, dans la confiance envers son père. Mais Jean-Baptiste a dit, voici, en désignant Jésus, voici l'agneau de Dieu. Là, c'était clair. Et Jésus, quand il s'est offert, il le savait parfaitement ce qu'il faisait. Jésus, ça lui est pas tombé dessus comme ça d'un coup, en se disant, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu m'a abandonné. Non! Je savais dès le début qu'il devait faire, qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Même à l'âge de 12 ans, c'est ce qu'il a dit. Et jusqu'à la fin de sa vie, c'est ce qui s'est passé, sa vie terrestre. Il y a eu une parole qui éprouve, mais on voit un Abraham qui traverse cette parole, qui accepte d'obéir malgré l'épreuve. Il y a une parole aussi qui éclaire, parce que quand ils sont arrivés au lieu que Dieu avait dit, Abraham commence à construire l'autel. Vous imaginez là aussi, il est en train de bâtir les 12 pierres. Enfin là, on ne sait pas s'il y avait 12 pierres, c'est par la suite. Mais il bâtit l'autel avec les pierres, et à chaque pierre, il se dit, mince, mais plus j'en pose une, plus je me rapproche du sacrifice. Et il commence à mettre le bois sur les pierres. Il commence à ranger tout ça, mais on imagine tout ce qui se passe dans sa tête. Il commence à prendre son fils qui se questionne. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Il l'étend sur l'autel. Il le lie. Il accroche avec des cordes. Et puis il commence à prendre le couteau, à étendre la main. Et il se dit, je ne sais pas de quelle manière, mais le Seigneur est capable de faire un miracle. Jusqu'au bout, il a fait comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à ce moment-là, une parole est venue de Dieu. Le Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu qui parle. Il donne une parole qui éprouve, oui, mais il donne aussi une parole qui vient éclairer, qui vient montrer ce qu'il faut faire. Et il lui dit tout de suite, stop, arrête. Alors que sûrement il était prêt, il a pris du temps avant de trouver la force de faire le geste. Mais là, stop, le Seigneur l'arrête. Quelqu'un a dit, les limites de l'homme sont le champ d'action de Dieu. Quand on est à bout, quand on est dans nos limites, dans nos derniers retranchements, c'est là que Dieu peut agir. Des fois, on n'aime pas arriver dans nos limites. On n'aime pas être éprouvé, on n'aime pas que ça soit compliqué. Mais quand on est dans ces moments-là, ça permet au Seigneur de manifester sa gloire, c'est tout. C'est aussi simple que ça. De la même manière qu'un nageur, un monsieur qui tombe dans l'eau et qui ne sait pas nager, va se débattre. Et si le sauveteur vient l'attraper et qu'il est en plein dans sa force en train de se débattre, le sauveteur risque de se faire cogner dessus. On attend qu'il perde un petit peu connaissance, qu'il soit à la limite pour aller chercher celui qui est en train de se noyer. Parce qu'après, il va plus se débattre, ça va être beaucoup plus facile. Dieu, il fait la même chose avec nous. Mais on n'aime pas nous ça, parce que ça veut dire qu'on arrive à nos limites. On arrive à des moments où on doit reconnaître, Seigneur, je suis pas capable. Et on n'aime pas ça, parce que il y a la chair en nous, l'orgueil en nous qui fait qu'on voudrait tout maîtriser. Mais le Seigneur, lui, aime manifester sa puissance dans nos faiblesses, comme le disait l'apôtre Paul. Quand on arrive à bout de force, alors ne pleurons pas, ne gémissons pas, ne crions pas vers le ciel en pleurant, mais disons, Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi. Quand on enfonce dans l'eau noire, comme l'apôtre Pierre, quand on tend de la main en disant, Seigneur, secours-moi, et le Seigneur va nous secourir. Parce qu'il est un Dieu qui pourvoit. Il éclaire Abraham, il lui donne de savoir ce qu'il va faire. Alors qu'il est prêt à faire cet acte totalement fou aux yeux des hommes, et qui est contraire à ce qu'il ressent dans son cœur, c'est à ce moment-là qu'il a une parole. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez que Dieu vous parle de manière précise? Moi j'aime ces moments-là. Et je bénis le Seigneur parce que ça arrive pas une fois, ça arrive pas deux fois, ça arrive toutes les fois où on en a besoin. À chaque fois, le Seigneur est celui qui manifeste sa grâce. Et là, donc Dieu lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Franchement, dites-moi, est-ce que Dieu le savait déjà? Il est omniscient, donc il sait tout. Dieu savait déjà que Abraham n'allait pas lui refuser son fils. Mais pourquoi est-ce que c'est dit comme ça? Parce que Dieu le savait, mais Abraham avait besoin de le savoir en fait. C'est aussi simple que ça. Quand les épreuves arrivent, quand les difficultés sont là, c'est nous qui avons besoin de voir que notre foi elle est réelle. Abraham, il a vu que sa foi c'était pas du gnangnan, c'était pas des belles paroles, c'était des actes. Au point que Dieu lui a dit, t'inquiète pas, je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Oh, moi j'aime les paroles comme ça quand le Seigneur me dit, je sais ce qu'il y a dans ton cœur, tu es sur le bon chemin, avance et je vais te bénir. Parce que ça, c'est des paroles qui nous permettent d'avancer, d'être libérés de ce qui nous entrave dans notre vie. Voilà la parole qui est claire. Si Dieu nous éprouve, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Dites à quelqu'un à côté de vous, c'est pour toi. Si Dieu t'éprouve, c'est pour toi. C'est pour ton bien. Alors oui, c'est un mal pour un bien. Et c'est pour moi aussi. Hein, parce qu'on a vite fait de rejeter la balle sur les autres. Hein. Mais c'est pour moi aussi. Seigneur, m'éprouve, mais c'est pour moi, pour mon bien. Pour que je grandisse, pour que j'aille plus loin. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham lève les yeux et il voit derrière lui un bélier. Il voit le fameux agneau qu'on ne savait pas où c'est qu'il était, mais il est là. Dieu a pourvu, Dieu a donné, Dieu avait promis que quelque chose allait se passer, mais la chose se passe. Et je suis sûr, alors là, c'est, je m'avance personnellement, mais je suis quasiment sûr que quand Dieu a donné l'appel à Abraham d'aller tuer son fils, d'aller l'offrir en sacrifice, je suis sûr qu'à ce moment-là, il a inspiré un petit bélier dans le coin en disant « Va à la montagne de Morija ». Et le bélier a commencé à se dire « Mais oui, mais l'air est plus frais là-bas, l'herbe est plus verte, et ça va être merveilleux ». Et à un moment donné, il a vu un buisson qui semblait tellement appétissant, il a commencé à le grignoter, et le problème, c'est qu'il s'est enchevêtré les cornes dans le buisson. 3 jours avant, ce bélier l'a parcouru des kilomètres pour venir jusqu'à cette montagne, parce que Dieu avait parlé à un homme qui avait sa confiance. Mais Abraham ne le savait pas, lui. Mais il a fait confiance à Dieu. Parce qu'il a un Dieu qui voit et qui pourvoit. Mes frères, mes sœurs, quand nous sommes dans l'épreuve, croyant que Dieu a parlé à un bélier quelque part, croyant que Dieu a déjà réglé la situation, croyant que Dieu a déjà pourvu, il y a l'épreuve qui est là devant nos yeux, nous on voit que ça, mais il y a un Dieu qui a déjà pourvu, qui a déjà trouvé un moyen de sauver, de nous sauver, de nous délivrer dans l'épreuve. Amen. Croyons-le de tout notre cœur. Croyons, ayons cette vision de notre Dieu qui est un Dieu qui pourvoit. Un Dieu qui pourvoit, mais qui nous demande de montrer notre foi dans des choses qui nous coûtent. Il y a des fois des choses qui nous coûtent. Je me souviens quand j'étais tout jeune et que j'avais quelques sentiments pour une certaine jeune fille, prénommée Laure, mais que rien ne s'était passé encore. J'étais allé dans une colo et alors que je réfléchissais à cela, donc je m'étais dit le mieux pour bien passer le temps, c'est de servir le Seigneur. J'avais trouvé un moyen de servir le Seigneur. Vous savez comment je faisais? Je faisais la grosse plonge dans la colo. Les grosses marmites, les grands plats, avec l'éponge verte, là, je grattais tout. Je les grattais même du mieux que je pouvais. J'essayais de sortir les taches qui étaient noires dessous. Je faisais le maximum. Justement parce que j'avais certains sentiments et qui me trottaient dans la tête, donc j'essayais de faire les choses pour servir le Seigneur. Et à un moment donné, à un culte, je me souviens qu'il y a eu un verset qui a été lu et le Dieu m'a parlé vraiment. Une pensée très forte s'est imposée à mon cœur. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu es prêt à abandonner cet amour que tu as pour l'or? Pour moi. C'est ce qu'il m'a dit. Et le verset... je rigole toujours avec ce verset, même si l'or ça rigole moins, vous allez comprendre. C'est le verset qui était lu, c'est dans Job 22. Attache-toi donc à moi, et tu l'auras la paix. Jette l'or dans la poussière, et le Tout-Puissant sera ton or. Vous avez compris le jeu de mots? Et je trouve qu'on a un Dieu qui est merveilleux. Alors bien sûr, c'était pas question de la pousser, hein, puisque en plus j'étais loin, séparé de kilomètres, mais c'était spirituellement. Est-ce que tu es prêt à ce sentiment-là de le jeter dans la poussière pour t'attacher à ton Seigneur? Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est compliqué là ce que tu me demandes. Je n'étais pas aussi obéissant qu'Abraham, hein. Il a fallu batailler. Mais après, j'ai vraiment senti une conviction de la part de Dieu. Dieu, j'ai compris que c'était pour mon bien. Si Dieu me demandait ça, c'était pour mon bien. Donc j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me le demandes, eh ben j'accepte. Je suis prêt à renoncer alors. Renoncer à ces sentiments, si c'est toi qui me le demandes. Donc je comprends un tout petit peu ce qu'Abraham a vécu. Et la colo est passée comme ça. Je savais pas trop ce qu'il allait en être. Et en fait, quand je suis rentré de la colo, ben c'est là que tout s'est débloqué. J'ai compris que Dieu n'attendait qu'une chose, c'est d'être sûr que cet amour que j'avais pour l'or ne serait pas au-delà de cet amour que j'ai pour lui. Et c'est exactement ce qu'Abraham a vécu. Dieu lui a donné un fils, Dieu a donné une promesse, il a vécu un miracle, mais il a voulu lui montrer que c'était plus important qu'il aime son Dieu en premier qu'il aime les grâces que Dieu lui a faites. Oh, vous savez, frères et sœurs, combien de fois on peut se laisser tromper et piégé par les grâces que le Seigneur nous a faites. Dieu nous fait grâce. On a bataillé pendant des années sans travail. Le Seigneur nous donne un travail, mais on se fait piéger par le travail et on n'a plus le temps de consacrer à Dieu. Ou Dieu nous fait grâce d'avoir un enfant. On est content enfin d'avoir un enfant, mais on se fait piéger par les enfants. Et on n'a plus le temps de consacrer à Dieu. Et Abraham, il a compris que Dieu est celui qui pourvoit. Quand on fait passer Dieu en premier, ben, il nous donne tout le reste. Vous savez ce que dit l'Épître aux Hébreux par rapport à ce passage ? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est pour ça qu'il a pu l'offrir, parce qu'il avait des promesses avant. Et il est dit, il pensait que Dieu est puissant. Dites puissant. Plus fort que ça, il est puissant quand même. Ah bon ? Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. C'est-à-dire que même Abraham pensait que même s'il arrivait au point de tuer son fils, Dieu allait le ressusciter puisqu'il avait fait des promesses. Dieu allait pourvoir d'une manière ou d'une autre. Soit en offrant quelqu'un d'autre à la place, le bélier, soit en donnant une vie nouvelle à Isaac pour qu'il revienne à lui. Mais il savait que Dieu allait pourvoir. Ça, c'était quelque chose qui était sans concession dans le cœur d'Abraham. Et dans notre cœur à nous, est-ce que nous avons cette foi qu'il y a des épreuves, qu'il y a des difficultés, mais qu'il y a un Dieu qui nous éclaire dans l'épreuve, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous aide à comprendre quelle est sa volonté. Un jeune homme était dans une réunion de Donald G. Je ne sais pas si certains connaissent Donald G. C'était un pasteur qui venait, je ne sais plus de quel pays d'ailleurs. Peut-être Marine, tu connais ? Non ? Je ne sais plus si c'est un anglophone ou quelqu'un comme ça, qui venait faire des réunions dans les années passées, hein, au tout début du mouvement des Assemblées de Dieu. Et il y avait un jeune homme qui était là dans l'église, qui entendait la prédication, mais il était tourmenté aussi dans son cœur. Pareil, et c'est souvent dans cet âge-là que ça se passe, pour une jeune fille avec qui il avait quelques sentiments, mais il savait pas si vraiment c'était la bonne personne, s'il fallait qu'il se marie avec elle. Et c'est un monsieur, entre-temps, il a vieilli, vous le comprendrez, et c'est lui-même qui me l'a raconté il y a 2 semaines en arrière. Et alors qu'il était, pendant la prédication, il était recueilli en train de penser à tout cela qui agitait son cœur. Il avait les mains comme ça, entre les jambes, la tête repliée. Il prie, dit « Seigneur, montre-moi, est-ce que c'est, je dois me marier avec cette personne? Montre-moi, est-ce que c'est avec elle que je dois faire alliance? C'est notre décision importante, Seigneur. Montre-moi !» Et alors qu'il dit ça, il a comme une vision, il voit une alliance qui roule et qui vient devant lui. Et en fait, c'était le monsieur de devant qui jouait avec son alliance, vous savez comme ça arrive parfois, et il avait fait tomber son alliance, et c'était pas une vision mystique, hein. C'était qu'il a vu vraiment une alliance rouler jusqu'à lui, et tomber, s'arrêter juste entre ses deux pieds. Et là, au travers de ce petit événement qui s'est passé, Dieu lui a dit, c'est bon, vas-y, fonce. Et je peux vous dire que ben, ça a fonctionné, puisque non seulement ils se sont mariés, mais ils ont servi le Seigneur ensemble, et ça fait plus de 50 ans qu'ils sont mariés et qu'ils servent le Seigneur en tant que couple. Parce que cet homme a demandé, Seigneur, donne-moi une parole. Montre-moi, éclaire mon regard. Souvent on fait des choix, mais sans demander l'avis du Seigneur. Et combien c'est dangereux de faire ça. Mais quand on demande au Seigneur, il est celui qui pourvoit. Et vous avez vu la fin ? La fin c'est quoi ? Ben, c'est qu'il reçoit la bénédiction. Vous savez, c'est un principe ça. Quand Dieu voit un cœur qui imite son cœur à lui, ben Dieu va bénir. Dieu bénit ce qui ressemble, ce qui a sa nature. C'est pour ça qu'il veut qu'on ait une nature divine, alors qu'on a une nature pécheresse, mais il nous donne une vie nouvelle pour nous bénir. Si on a un cœur qui aime, Dieu va nous bénir. Si on a un cœur qui se met à obéir à sa parole, Dieu va nous bénir. C'est automatique, parce que c'est comme ça que ça marche. Dieu est celui qui bénit ce qui imite son cœur. Est-ce que nous sommes prêts à goûter à cette même bénédiction ? Dieu dit, je le jure par moi-même. Il faut le faire quand même. Des gens qui ont fait confiance à Dieu, et on n'a pas besoin qu'ils jurent, mais Dieu, pour Abraham, il a dit, je le jure par moi-même. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Parole de l'Éternel en plus, il en rajoute une couche. Parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Il y a un principe qui est derrière cette vérité, c'est quoi ? C'est que quand je choisis de quitter ce que Dieu me demande de quitter, Dieu me bénit derrière. Et peut-être tu vas me redonner ce que j'ai quitté, mais me le donner d'une manière différente. à la bonne place, comme ça a été le cas pour moi, pour Laure, comme ça a été le cas pour Abraham et Isaac. Quand je choisis de quitter et que je dis « Seigneur, c'est toi en premier », mais le Seigneur est béni derrière, parce qu'il est le Dieu qui voit et qui pourvoit. Que son nom soit béni. On va fermer les yeux quelques instants. Je sais qu'il y a dans ce lieu des personnes qui sont dans des combats. Je sais qu'il y a dans ce lieu des personnes qui sont dans l'épreuve. Et il y a aussi les combats que les hommes ne voient pas, les combats invisibles. Mon frère, ma sœur, souviens-toi que Dieu, si Dieu t'éprouve, c'est pour te bénir. Le résultat de l'épreuve d'Abraham, c'est la bénédiction pour lui et pour des milliers, et des millions et des milliards même de personnes. La bénédiction. En Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, nous dit l'Épître aux Galates. Abraham a été béni parce qu'il a quitté, ce sentiment d'amour pour son fils pendant quelques instants pour mettre Dieu en premier dans sa vie. Et Dieu lui a redonné son fils. Et lui a donné en plus une promesse. Seigneur, vois ton épreuve, mon frère, ma sœur. Le Seigneur veut te donner une parole pour t'éclairer, une parole pour te montrer le choix qu'il faut faire, une parole aussi pour te bénir si tu es dans l'obéissance, si tu choisis d'abandonner ce que Dieu te demande, si tu choisis de marcher sur le sentier qu'il t'a tracé. Ce matin, crois que tu as un Dieu qui voit, qui te voit, qui te connaît personnellement, de la même manière qu'il a appelé Abraham par son prénom. Il veut t'appeler, mon frère, ma sœur, par ton prénom, parce qu'il te connaît. Mais il veut que tu le connaisses mieux. Il veut que tu le connaisses comme le Dieu qui pourvoit. Il veut pourvoir dans ton épreuve. D'une manière ou d'une autre, il va le faire, parce que notre Dieu est puissant. Crois ce matin que ton Dieu est puissant. Crois qu'il est puissant pour te sortir de n'importe quelle épreuve. Crois qu'il a déjà prévu une solution. Il y a un bélier coincé dans des buissons quelque part pour régler l'épreuve. Et attends-toi à ton Dieu. Merci, Éternel. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous montre, Seigneur, qui nous rappelle ce que tu as fait pour Abraham, mais qui est comme une promesse de ce que tu veux faire pour chacun de nous. Merci parce que tu sais que tu ne peux nous amener à progresser que si nous quittons certaines choses, que si nous abandonnons certaines choses. Et alors cette mort à nous-mêmes entraîne la vie éternelle. Seigneur, merci. Merci. Et que ta vie puisse couler dans ce lieu, selon les besoins de tes enfants. Oui, que là où il y a des personnes qui sont limitées, qui sont faibles, qui sont chancelantes, ta gloire puisse se manifester avec force, avec puissance, que tu puisses montrer que tu es puissant dans ces situations, pour sauver, pour délivrer, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous voulons te dire, gloire à ton nom, Seigneur. Amen.